Alexandre Dumas, poète, peintre et musicien. Avez-vous remarqué ceci? Tous les peintres aiment la musique, tandis que tous les poètes ou la détestent, ou la comprennent mal, ou disent, comme Charles X, ne la crains pas. Essayons d'expliquer ce fait. La peinture et la musique sont deux arts essentiellement sensuels. Les musiciens et les peintres idéalistes sont des exceptions assez peu appréciées des autres peintres et des autres musiciens. Voyez Schaeffer, voyez Schubert. Les musiciens existent dans un pays en raison inverse des poètes. Ainsi, la Belgique, qui n'a pas un poète, pas un romancier, pas un historien, à des compositeurs respectables et des exécutants supérieurs. Madame Pleyel, Vieuxtemps, Baignot, Bata, que sais-je moi, 10 autres encore. Elle a d'excellents peintres, Gallet, Willems, les deux Stevens, Leys. Et la France, qui a des poètes à foison, Hugo, Lamartine, de Vigny, Barbier, Brizeux, Émile Deschanel, Madame des Bordes-Valmore, n'a en compositeur qu'Auber et Halévy. Je ne nomme pas plus Hérold et Adam que je ne nomme Chateaubriand et de Musset. Tous deux sont morts. Madame, pourquoi les peintres aiment-ils la musique? C'est que, comme nous l'avons dit, la musique et la peinture sont deux arts sensuels. La musique entre par les oreilles et chatouille les sens. La peinture entre par les yeux et réjouit le cœur. C'est la peinture et la musique qui sont sœurs, et non pas, comme le dit Horace, la peinture et la poésie. Mais nous dirons pourquoi la peinture et la poésie ne sont pas sœurs. C'est que la peinture est égoïste. Le poète décrit un tableau. Il n'aura jamais l'idée de rien changer, d'en altérer les lignes, d'en transformer les personnages. Le peintre traduit la poésie. Il ne s'inquiète ni des traits arrêtés, ni des costumes traditionnels, ni des contours tracés par la plume. Plus le peintre sera grand et individuel, plus la traduction s'éloignera de l'original. Tant que les peintres ont été idéalistes comme Giotto, Orcagna, Benezzo Gozzoli, Beato Angelico, Masaccio, Perugino, Léonard de Vinci et Raphaël dans sa première manière, la poésie biblique et évangélique a été aussi bien rendue que possible. Mais quand Raphaël eut fait les Sibylles, Michel-Ange le Jugement dernier, quand la peinture païenne sous le pinceau de Carrache se fut substituée à la peinture chrétienne, quand la Vierge fut une niobée pleurant son fils, et non plus Marie s'évanouissant au pied de la croix, Jésus, un Minos qui juge les vivants et les morts au lieu d'un apôtre qui pleure et pardonne, le Père éternel, un Jupiter olympien, clouant implacablement Prométhée sur son rocher, au lieu d'un maître compatissant, se contentant de chasser Adam et Ève du paradis terrestre, la poésie et la peinture rompirent l'une avec l'autre. Et à l'heure qu'il est, il est impossible qu'un poète et un peintre jugent de la même façon. Le peintre peut voir juste à l'endroit du poète et le poète le reconnaître, mais le peintre n'admettra jamais que le poète voit juste à l'endroit du peintre. Ainsi, prenons par exemple la pêche miraculeuse de Rubens. Le poète dira: c'est admirablement peint, c'est un chef-d'œuvre d'exécution. Le côté matériel de la couleur et de la brosse est irréprochable, du moment que ce sont des pêcheurs d'Ostende ou de Blankenberg qui firent leur filet. Mais si c'est le Christ avec ses apôtres, non! Et pourquoi non? Dame, parce que j'ai dans l'esprit la poésie traditionnelle du Christ, de l'homme au corps mince, aux longs cheveux blonds, à la barbe rousse, aux yeux bleus et doux, à la bouche consolatrice, aux gestes bienveillants. Parce que mon Christ à moi, c'est celui qui prêche sur la montagne, qui plaint Satan de ne pouvoir aimer, qui ressuscite la fille de Jaïr, qui pardonne à la femme adultère, et qui, de ses deux bras cloués sur la croix, bénit le monde, et que je ne vois rien de tout cela dans le Christ de la pêche miraculeuse, pas plus que je ne vois un arabe des bords du lac de Génézareth dans un gros et puissant gaillard à vareuse rouge qui tire la barque à lui. Et le peintre vous répondra, « Mais vous n'avez pas le sens commun, mon cher ami. Rubens a vu le Christ comme l'homme au manteau rouge et l'arabe comme l'homme à la vareuse. » Que voulez-vous répondre à cela? Rien. Il faut admirer le côté matériel de la peinture, convenir que Rubens et Rembrandt sont les deux plus habiles peintres qui aient jamais existé, mais se dire à soi-même, tout bas, si j'avais à prier devant un Christ ou devant une Vierge Marie, ce serait point devant le Christ de Rubens ou la Vierge Marie de Rembrandt que je pleurerais et que je prierais. Voilà pourquoi le peintre peut apprécier le poète au point de vue de la poésie, et voilà pourquoi le poète n'appréciera jamais le peintre au point de vue de la peinture. Maintenant, pourquoi les poètes sont-ils si froids à l'endroit de la musique, qui se contentent de ne pas la craindre quand ils ne la haïssent pas? Oh, mais ce sera encore plus simple que ce que je viens de vous expliquer. La poésie n'aime pas la musique parce qu'elle est elle-même une musique. Quand la poésie a affaire à la musique, elle n'a donc point affaire à une sœur, mais à une rivale. En effet, que la musique fasse les honneurs d'une partition à la poésie, sous prétexte de donner l'hospitalité à la poésie, elle la conduira dans le château de Procuste. Elle la couchera sur son lit, c'est-à-dire sur un véritable échafaud. Les vers qui seront trop courts, elle les tirera au risque de les disloquer jusqu'à ce qu'ils aient la longueur voulue. Et les vers qui seront trop longs, elle les reliera au risque de les estropier jusqu'à ce qu'ils soient raccourcis à sa convenance. Elle aura besoin d'une syllabe en plus, elle ajoutera. Le poète a écrit « L'or est une chimère, sachons nous en servir ». Et le musicien mettra « Oh, l'or est une chimère, et sachons nous en servir. » Elle aura besoin d'une, de deux, de trois, de quatre syllabes en moins. Le musicien les retranchera, et il aura raison. Quand les poètes voudront être lus comme poètes, ils feront les odes et ballades, les méditations poétiques, les contes d'Espagne et d'Italie. Et quand ils voudront être écoutés comme librettistes, ou plutôt ne pas être écoutés, ils feront Guillaume Tell, le prophète, la marchande d'oranges. On a dit qu'on ne pouvait faire de bonne musique que sur de mauvais vers. C'est exagéré, peut-être. Certains musiciens font d'excellentes musiques sur de beaux vers. Preuve, le lac de Lamartine, musique de Niedermayer, le navire de Soulier, musique de Montpoux. Mais en général, la puissance humaine ne va pas jusqu'à écouter et comprendre à la fois de belles musiques et de beaux vers. Il faut absolument abandonner l'un pour l'autre. Les mélomanes suivront les notes, les poètes suivront les paroles, mais les paroles dévoreront les notes ou les notes mangeront les paroles. Supposez que l'on sorte d'un opéra de scribe. On fredonne à la musique, et supposé que l'on sorte d'un opéra de Lamartine, on redira les vers. Ce qui signifie que, sans être un grand poète, et justement parce qu'il n'est pas un grand poète, Scribe sera pour Meyerbeer, Auber et Halévy un librettiste préférable à Hugo ou à Lamartine. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas fait un seul opéra avec Hugo ou Lamartine, et qu'ils ont fait à peu près tous leurs opéras avec Scribe.